Chapitre 19. Les jours suivants, l'état de M. Villemur demeura stationnaire. Chaque soir, vers 6 heures, Jean Noël se rendait avenue de Malakoff. Depuis le 14 mars, il n'avait pas donné signe d'existence à Mlle Wurzel. Le samedi, c'est-à-dire le jour où il avait été convenu qu'il retournerait avec la jeune fille à Saint-Cloud, arriva. Dès que Jean Noël fut en présence d'Odile, il lui annonça, comme s'il était frappé personnellement par un grand malheur, que M. Villemur était au plus mal. Mlle Wurzel feignit d'en être attristée. Elle s'étonna pourtant que Jean Noël donnât tant d'importance à un événement qu'il n'en avait pas pour lui et qu'il sacrifie à ses projets à des gens desquels, comme l'expérience l'avait montré, il ne devait rien attendre. Elle n'osa cependant lui en faire l'observation de peur de paraître inhumaine. Mais quand elle s'aperçut que l'agitation dans laquelle la maladie de M. Villemur plongeait Jean Noël était surtout causée par les avantages que celui-ci comptait tirer d'une issue fatale, elle n'eut plus aucun scrupule. « Avez-vous au moins prévenu Marguerite que nous n'irons pas la voir cet après-midi ?» Il lui répondit qu'il ne l'avait pas fait, mais que cela était sans conséquence. « Vous croyez ?» dit Odile, qui trouvait que Jean Noël agissait bien cavalièrement avec une femme qu'il se proposait de gagner par la douceur. « Je ne pouvais pas me douter de ce qui allait arriver. »« Voyons, Jean Noël !» dit Odile sur le ton d'une femme à son mari. Depuis qu'ils s'étaient retrouvés, ils n'avaient jamais parlé de ce qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, leurs sentiments devant demeurer dans l'ombre jusqu'à ce que Jean Noël fût libre. « Il faut que je m'en aille, on m'attend. » « Pourtant, pensait Odile, on a beau perdre un parent, on ne compromet pas pour cela son avenir. »« Et quand vous reverrai-je » demanda-t-elle, certaine que, dans son exaltation, Jean Noël ne remarquerait pas qu'elle tenait à lui. « Comment voulez-vous que je le sache ? » répondit-il en levant les bras et en laissant paraître la fierté qu'il avait de ne plus pouvoir rien promettre. « Vous me téléphonerez au moins pour me tenir au courant ?» Il promit de le faire et partit avec la même précipitation qu'il était venu. À peine arrivé à avenue de Malakoff, il eut le pressentiment que M. Villemur allait mieux. Le soleil jaunissait les vitraux de la baie du vestibule, baie mystérieuse qu'il n'avait jamais vue ouverte. Il crut pendant un instant que cette impression de gaieté, de détente, c'était lui qui l'amenait du dehors. Bien qu'il se fût familiarisé avec les domestiques depuis le début de la semaine, le valet de chambre, comme si la vie allait reprendre son cours habituel, le reçut ainsi qu'un étranger et le conduisit dans le cabinet de travail. Quand Annie parut, il remarqua tout de suite qu'elle était beaucoup plus calme que la veille. Elle était légèrement décolletée, elle dont le cou était d'habitude caché. Ses cheveux étaient souples et brillants. Au lieu de ce mouchoir qu'elle tenait continuellement à la main, elle portait un petit sac de soirée. « Cela va beaucoup mieux, » dit-elle tout de suite, comme si Jean Noël, plongé dans l'inquiétude, avait hâte d'être rassuré. À ces mots, il rougit jusqu'aux oreilles. « Ah, tant mieux » murmura-t-il, comme si le soulagement qu'il éprouvait l'empêchait de parler. En rentrant rue Laugier, il eut la désagréable surprise de trouver sa mère et son frère. Laure leur tenait compagnie. On eût dit que le malheur qui frappait les Villemur avait quelque importance pour ces gens et qu'il était un prétexte à réconciliation. Au regard interrogateur de sa mère, Jean Noël comprit tout de suite qu'elle attendait son retour avec anxiété, comme si elle tremblait pour la santé de M. Villemur. Mais comment Mme Mercier avait-elle appris ce qui se passait avenue de Malakoff? Au temps où Jean Melchior avait fréquenté l'atelier de Mlle Villemur, Ernestine Mercier avait défendu ses droits, qu'elle considérait identiques à ceux d'une femme mariée. Elle avait intrigué. Ça avait été ainsi qu'elle avait fait la connaissance d'Elisabeth, la femme de chambre d'Annie. Or, il y avait quelques années, Elisabeth, déjà âgée, avait quitté son service. Grâce à une rente que lui versaient ses anciens maîtres, elle vivotait dans une pension de Neuilly. Chaque samedi, elle retournait avenue de Malakoff, où elle déjeunait à l'office. Ensuite, pour se rendre utile, elle servait le café. Elle pénétrait alors dans l'appartement. Elle échangeait un mot aimable avec tout le monde, car elle avait une grande reconnaissance pour cette famille, au service de laquelle elle était restée plus de 30 ans. mais son dévouement ne l'empêchait pas de répéter à Madame Mercier tout ce qu'elle entendait. Si elle était incapable de mal faire, elle avait toujours éprouvé un certain plaisir à se plaindre de ses maîtres, à être mêlée encore plus intimement à leur vie qu'elle ne l'avait été en les servant. Dès qu'elle eut appris la maladie de M. Villemur, elle avait été immédiatement prévenir Madame Mercier. Celle-ci, tout de suite, avait pensé aux conséquences de cette mort. Annie allait hériter. Elle donnerait donc certainement de l'argent à Jean-Noël. Peut-être même se libérerait-elle de la dette qu'elle avait vis-à-vis de la première femme de Jean Melchior, car elle n'avait jamais dit que cette dette n'existait pas. Elle avait dit que c'était faute d'argent qu'elle ne pouvait s'en acquitter. Il fallait donc le plus vite possible revoir Jean-Noël. Aussi, quand il arriva, Madame Mercier l'attendait-elle déjà depuis plus d'une heure. Elle avait commencé par cacher l'objet de sa visite à Madame Mourier, ne voulant pas trahir son fils si celui-ci n'avait rien raconté à Laure. Pour des raisons analogues, Madame Mourier s'était tue également. Après 10 minutes d'entretien, les deux femmes avaient compris qu'elles se trompaient mutuellement. Mais Laure ne s'était pas départie de son amabilité. Elle n'avait rien à craindre. En sa qualité de femme aimée, ne serait-elle pas toujours la plus forte ? Il y a un mieux, dit Jean-Noël à Madame Mourier. Ernestine Mercier regarda méchamment son fils. Ne mentait-il pas pour l'écarter ? Quant à Laure, elle parut se réjouir sincèrement de cette nouvelle. Elle n'avait pourtant pas manqué d'entrevoir les avantages qu'elle pourrait tirer de la mort de M. Villemur. Pour cette raison, ces jours derniers, elle ne s'était pas montrée plus attentionnée, car elle avait beaucoup d'amour-propre quand il s'agissait d'intérêt. Le lendemain matin, Jean-Noël reçut une lettre de Marguerite. Celle-ci avait, du moins le prétendait-elle, attendu son mari toute la journée. Elle n'était pas à sa disposition. Elle élevait sa fille le mieux que ses moyens le lui permettaient. Il ne se passait pas un après-midi sans qu'elle la promenât plusieurs heures. Samedi, elle n'avait pu le faire. Elle ne voulait pas compromettre la santé d'Annie à cause de Jean-Noël. Celui-ci avait déjà fait bien assez de mal à cet enfant. La lettre entière était visiblement écrite sous l'empire de la colère. Jean-Noël en fut surpris. D'habitude, quand il ne tenait pas une promesse, et c'était pour cela qu'il n'avait pas écrit, Marguerite gardait le silence. Si ce temps était fini, c'était que, depuis qu'elle savait qu'il désirait sa liberté et qu'il avait par conséquent besoin d'elle, elle avait pris conscience de son importance. Pour divorcer, c'était comme pour se marier, il fallait être deux. Tant qu'il l'avait considérée comme sa femme, elle avait tout accepté, mais à présent, elle n'avait plus de raison de lui passer ce que, par amour, elle avait toléré. Jean-Noël brûla aussitôt cette lettre, puis sortit. Le soleil brillait dans le ciel. La place de l'Étoile, encore mouillée des pluies de la nuit, était déserte. Quelques nuages blancs, comme on en voit sur les tableaux de bataille, se suivaient à grande distance. Ce fut dans une maison en deuil que Jean-Noël pénétra peu après. M. Villemur était mort au lever du jour. Jean-Noël regarda Annie avec étonnement. Elle était calme, indifférente même. Il se rappela alors que cette froideur l'avait déjà surpris lorsqu'il avait revu au lendemain de la mort de Bertrand et de Jean Melchior. « C'est terrible !» murmura Jean-Noël. Il y avait quelques semaines, devant ce même bureau, M. Villemur était assis, sans se douter que sa fin fût si proche. Jean-Noël le revoyait, se levant pour aller chercher Annie, ôtant ses lorgnons comme il le faisait toujours dès qu'il cessait de lire. Cet homme continuait de vivre dans son esprit et, qu'il ne fût plus, donnait déjà quelque chose de touchant aux habitudes qu'il avait eues. Si M. Villemur n'avait jamais été qu'un étranger pour Jean-Noël, il n'en était pas moins agréable à celui-ci de s'imaginer qu'il perdait, lui aussi, un être cher. Le nom de Villemur ne lui était-il pas presque aussi familier que celui d'Ettlinger ? Se leurrait-il tellement en pensant que cette mort marquait une date dans son existence ? De quoi l'avenir allait-il être fait à présent ? Il ne pouvait le dire, mais il était certain qu'il était à la veille d'un grand changement. Malheureusement, pour le moment, Annie était glaciale. « Il vaut mieux que tu reviennes demain, » dit-elle. Le mercredi suivant, l'enterrement eut lieu. Entre-temps, Jean-Noël était revenu chaque jour et il avait profité du désarroi général pour rester des heures avenue de Malakoff. Il arriva à 11 heures. Un peu avant, un incident s'était produit à son sujet entre Annie et Henri. Agacé par les allées et venues de Jean Noël, Henri avait fait observer à sa sœur que tout le monde se demandait qui était ce jeune homme, qu'on lui avait même posé diverses questions auxquelles il avait été embarrassé de répondre. Madame Ettlinger, qui avait profité des circonstances pour tâcher de rendre son beau-fils familier au sien, avait été profondément froissée de ce que son désir eût été deviné. Aussi Jean-Noël trouva-t-il sa belle-mère encore tout émue d'avoir pris sa défense et mieux disposée qu'elle ne l'avait jamais été à son égard. Elle lui demanda tout de suite de ne plus revenir avenue de Malakoff. Elle ajouta qu'elle-même allait vivre désormais seule, ce dont elle se réjouissait, qu'alors elle ne reviendrait que rarement dans cette maison, laissant ainsi entendre que la prière qu'elle venait de faire à son beau-fils, elle ne l'avait que transmise. Ce fut donc sans l'amertume qu'une pareille interdiction lui eût causé dans une autre circonstance, et le cœur rempli d'une joie secrète, car quel bonheur plus grand eût pu lui donner Annie que celui de considérer qu'elle avait autant de raisons que son beau-fils de se plaindre de sa famille, qu'il suivit l'enterrement, non aux côtés de sa belle-mère, mais perdu dans la foule. À l'église de l'Étoile, après la cérémonie, il passa devant la famille. À ce moment, un regret lui vint de n'en pas faire partie. Combien grande eût été sa fierté de serrer dignement toutes les mains qu'on lui eût tendues. Mais à la pensée qu'il ne pouvait tout avoir, il se consola. Devant Annie, qu'il avait failli ne pas reconnaître sous ses voiles, il s'arrêta comme arrivé au terme d'un voyage. Elle l'embrassa deux fois, le serra contre elle, si bien qu'il oublia que d'autres gens le suivaient. « Avance » murmura-t-elle en le poussant doucement. « Viens demain. » Jean-Noël vint donc le lendemain, avec d'autant plus d'exactitude que c'était Annie elle-même qui l'y avait invité, contre la volonté d'Henri. L'appartement était obscur. Le valet de chambre ne lui demanda pas, comme d'habitude, qui il voulait voir. Il avait reçu visiblement des ordres et il le conduisit tout de suite dans la chambre d'Annie. « Comme je suis contente de te voir, mon cher petit, » dit-elle. « Tu as été tellement dévoué, ta présence m'a été d'un si grand réconfort. » « C'était naturel, » répondit Jean-Noël, avec l'espoir que sa belle-mère allait se plaindre de sa famille. « Oui, c'est vrai, c'est naturel, ou plutôt, cela devrait l'être. » Se ressaisissant, comme si elle n'avait non seulement pas le droit de dire quoi que ce fût sur sa famille, mais de le penser, elle continua sur un ton tout différent. « Maintenant, mon cher Jean-Noël, tout va changer. Ce malheur va transformer ma vie. Ma mère ne restera sans doute pas à Paris, toute seule, dans ce grand appartement, car Henri, s'il m'a dit la vérité, doit se marier. Elle retournera chez sa sœur. Quant à moi, mon cher petit, je vais travailler, travailler. Ces dernières années, j'ai négligé ma peinture. Te rappelles-tu l'atelier de Nice ? Comme tout cela est déjà loin, n'est-ce pas? Nous avions tous des illusions. Enfin, ne pensons plus à cela. Nous nous verrons rue Boissonnade. Rue Boissonnade? Tu ne savais pas que j'avais loué un atelier rue Boissonnade? Non. C'est vrai, je voulais que personne ne le sût. On ne peut pas vivre sans un endroit où on peut s'isoler, travailler, se recueillir, n'est-ce pas? Toi, tu viendras me voir quand tu voudras. « C'est triste à dire, mais je vais être beaucoup plus heureuse maintenant. Dans ma famille, on ne m'a jamais pardonné d'avoir épousé ton père. J'avais beau prendre ta défense, on ne m'écoutait même pas. Je ne te le disais pas, mais je trouvais cela profondément injuste. Enfin, c'est le passé. Il ne faut jamais en vouloir à ceux qui ne partagent pas nos idées. Ma famille a toujours cru à certains principes. Elle m'a toujours considéré comme une sorte d'anarchiste. » Essayer de la détromper eût été inutile. Aussi sommes-nous restés chacune sur nos positions. Cependant que sa belle-mère parlait, Jean-Noël hochait la tête à chaque instant en signe d'acquiescement. Ce changement à son égard le surprenait, mais il était si heureux qu'il ne songeait même pas à en approfondir les raisons. Parfois, il était pris cependant d'une crainte, celle que l'intérêt inattendu qu'il suscitait n'eût d'autre cause que l'affliction dans laquelle la mort de M. Villemur avait plongé Annie.